Frères et sœurs, bien-aimés, nous voici rassemblés ce soir de la Pentecôte, une journée pour nous rappeler que l'Esprit Saint est venu sur des disciples et il est venu comme un vent puissant et leur a été donné de la force, du courage pour témoigner de l'Évangile à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue dans cette église où nous sommes venus nous retrouver les uns les autres et où nous sommes venus aussi pour nous retrouver nous-mêmes et nous retrouver aussi avec le Seigneur. Que chacun de nous se sente ici chez lui, chez elle, pour un moment d'écoute, de recueillement, de réjouissance musicale, que chacun de nous reçoive l'Esprit et par cet Esprit une joie profonde et une paix parfaite. Amen.
La Pentecôte était et est toujours une fête juive comme Pâques, une fête agricole devenue aussi une fête religieuse comme la Pâque juive. Elle porte le nom de Shavuot, ou fête des semaines, car elle a lieu 7 semaines après Pâques. On l'appelle aussi la fête des prémices. Pâques était la fête des semences, puis dans un second temps, les Hébreux ont donné un sens religieux à cette fête agricole. Pentecôte célèbre aussi le don de la Torah. Les chrétiens appellent Pentecôte la fête de la réception de l'Esprit qui les a confirmés dans leur vocation lors de la célébration à Jérusalem de la fête de Pentecôte. Louons le Seigneur. Je veux te louer avec mes propres mots. Je te remercie de m'avoir donné cette vie pour apprendre, pour découvrir, pour distinguer l'important du facultatif, pour saisir la dimension spirituelle de tout ce qui nous est offert.
Voici que je ferai une alliance nouvelle, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je vous invite à dire ensemble cette prière d'action de grâce que vous trouvez sur votre feuille. Que ton esprit descende sur nous pour que nos mots soient entendus, nos actes compris, notre présence au monde comme une occasion favorable de recevoir et de donner.
Thank you.
un des textes du jour. Acte 2, versets 1 à 13. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble à un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonné, stupéfait, il disait, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. » Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant, « Ils sont pleins de vin doux. » Ce soir, je vais tenter de vous conduire quelque part, si je peux me permettre. Puis, je vais tenter de vous perdre. Et ensuite, je vais tenter de vous retrouver. Mais Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Comme disent les discoureurs en préface, et les médecins aussi, cela ne sera pas long. Il est étonnant que les croyants sincères ne s'étonnent pas, justement, que leur Dieu leur parle, et aussi que eux leur parlent, lui parle à Dieu, dans leur langue maternelle. C'est vrai que je n'ai pas la sonorité du cor, et cet enfant aime le cor. Ces croyants sincères, et j'appelle sincères des croyants qui savent qu'ils le sont, qui sont d'accord avec eux-mêmes. Ces croyants sincères ont l'habitude de prier en privé dans leur langue maternelle. Ils ont aussi l'habitude d'écouter ou de lire dans leur langue au moins commune ce qu'ils appellent la parole de Dieu, comme certains d'entre vous viennent de le faire, par exemple dans un culte. Mais ils peuvent malgré tout ne rien y voir d'exceptionnel, puisqu'ils sont croyants et, par définition pour eux, tout cela est normal. Alors que ces mêmes croyants sincères ont parfois un peu de mal à admettre la véracité d'un récit où des apôtres se mettent, sous l'effusion de l'Esprit de Dieu, à parler dans la langue maternelle de chacun des pèlerins assemblés en ce jour-là de la Pentecôte, de cette fête juive. Où est-ce que je veux en venir? Est-ce que je veux dire, par exemple, que la vie spirituelle apparemment banale d'un croyant serait, en fait, du miracle permanent? Oui, je pourrais aller vers là. Et à contrario, je pourrais considérer que ce miracle de la Pentecôte, qui est relaté dans le livre des Actes, serait donc tout aussi banalement exceptionnel comme toi, cher enfant. Je ne sais pas si vous allez le suivre, hein. Mais moi je préfère que l'enfant puisse s'exprimer. Oui. Donc que ce soit bien clair, et en particulier pour vous. Voilà. Donc vous aurez le texte quelque part, au fin fond d'Internet à un moment donné. En tout cas, merci d'être venu pour ce culte particulièrement musical. Une question, est-ce que j'ai le droit, au fond, d'associer les deux termes « miracle » et « banal » ? Donc, ma réponse est oui, puisque j'ai le droit, je fais une prédication et j'ai tous les droits. Est-ce que je veux faire un lien entre la banalité et le miracle ? Oui, je veux faire ça et c'est ce que je veux faire aujourd'hui dans cette prédication. Et pour continuer d'explorer cette voie, j'affirme que prier Dieu et espérer qu'il nous réponde ou à tout le moins qu'il nous parle dans notre langue maternelle demanderait qu'on envisage d'abord un instant le miraculeux dans cette banalité. Et que de notre côté, on puisse dépasser l'appréhension de ce récit du livre des Actes à cause de son prétendu caractère miraculeux, puisqu'on pourrait aussi bien dire « Moi, croyant lambda, ce miracle-là, je le vis tous les jours, et pourtant, je n'ai pas eu, moi, les honneurs d'être convié à apparaître dans un texte biblique, toujours les mêmes. » C'est à ce moment-là qu'un secret pourtant bien caché doit être révélé. Ça, c'est une introduction. Le christianisme, comme toutes les religions, a inventé des rites, et vous le savez très bien, voire des sacrements. Quand on les regarde attentivement, ces gestes, on s'aperçoit qu'ils proviennent du quotidien le plus banal. Le baptême, c'est un bain. La scène, c'est un repas du soir. La salutation du début du culte, c'est un bonjour, lequel bonjour a toujours été d'ailleurs une bénédiction. Et je vous encourage à ne plus jamais dire bonjour, mais à le souhaiter. L'exhortation finale du culte, c'est courage. La louange, c'est merci. Le pardon, c'est une remise de dette, etc. Ce que ces rites disent, ces gestes disent, c'est « soyez attentifs ». Il y a quelque chose de sacré dans les actes les plus quotidiens, et ces rites, au-delà de toute leur signification théologique, sont des rites de surlignement de ce qui devrait nous apparaître évident. Le défaut, il y en a un, évidemment, c'est que les religions ont inventé des noms spéciaux pour tous ces gestes, tous ces rites. Et cela nous conduit à croire à l'existence de domaines séparés. Le baptême ou la scène, et je parle des deux sacrements communs aux protestants, ces deux sacrements, pour les protestants en particulier, ce sont des paroles en acte. Parce que la parole verbale a ses limites. Un bain, un repas, c'est un langage encore plus évident qu'une langue maternelle. Un langage qui permet aux sourds et aux aveugles d'entendre, de voir, de sentir. C'est la banale réalisation d'une prophétie bien connue. Les sourds entendront, les aveugles verront, et ce à partir d'éléments qui constituent la routine la plus quotidienne. On pourrait dire finalement que le seul miracle, c'est Dieu. Et aussi qu'à partir du moment où l'on admet à ce Dieu son existence, ce qu'on appelle miracle serait largement à relativiser. En écrivant tout ce qui précède, quand j'ai préparé cette prédication, j'ai immédiatement pensé à des objections, ce qui a interrompu le cours de l'écriture. Et je me suis dit que peut-être vous en auriez de semblables, des objections. Et je me suis basé sur le fait que nous sommes tous semblables. La première objection est que ce n'est pas tant le fait que Dieu parle dans les langues maternelles de chacun ou dans les actes quotidiens. Ce n'est pas ça qui est miraculeux, mais plutôt le fait qu'il parle tout court. C'était l'impensé de ce que je disais au départ. Le fait qu'il parle tout court ou, allons plus loin, même qu'il y ait un Dieu. Ce n'est même pas tant une objection qu'un rappel à l'ordre, logique, rationnel et respectueux de l'auditoire. Mais voilà, cette notion de miracle, pour celui dont la représentation du monde n'inclut pas l'existence de Dieu, ne serait pas, loin de là, inexistante. Celui-ci, sans croire en Dieu, pourrait par exemple s'étonner avec quelle vitesse son éventuel bébé, content qu'il y en ait un, qui jusqu'ici savait déjà communiquer et échanger avec ses semblables bébés et avec certaines musiciennes, avec quelle vitesse ce bébé va se mettre à comprendre et ensuite à parler la langue qui l'entoure. Et cette facilité, au certes que plein de gens peuvent expliquer, reste déroutante, tant elle est fulgurante, qu'on le veuille ou non. Car en comparaison, pensons à toutes nos années horribles de seconde langue étrangère dans notre scolarité et mesurons ce qu'il nous reste de ce pénible apprentissage. Et pourtant, nous n'étions pas si vieux, pas si éloignés. Paradoxalement, le non-croyant sincère, mais ouvert à la beauté du monde, pourrait davantage trouver du miracle partout où il passe, alors que le croyant sincère, plus ou moins professionnel, a trouvé l'origine divine de tout ce qui se passe, en arrive jusqu'à trouver normal, encore un exemple au hasard, que les arbres communiquent entre eux, s'avertissent des dangers liés aux parasites, voire même se déplacent très lentement. Parfois, la croyance ou la foi sont des véritables aspirateurs à magie et à contemplation. Alors que le jardinier athée, le biologiste agnostique des plantes, pourrait toute sa vie trouver tout cela épatant. Pourquoi je vous raconte ça encore une fois ? Mais simplement pour brouiller les pistes. Parce que c'est la fête de Pentecôte. Et la fête de Pentecôte, c'est la fête qui brouille les pistes, en tout cas pour les chrétiens. Pour dire que ce n'est pas parce que vous incluez Dieu dans votre représentation du monde que ce Dieu existe. Ce n'est pas non plus parce que des milliards de gens s'adressent à Dieu dans leur langue maternelle ou habituelle que celui-ci existe. Mais ce n'est pas non plus parce que vous n'incluez pas Dieu dans vos représentations du monde que celui-ci n'existe pas. Croyant ou non, ce n'est pas notre psyché qui fait que Dieu existe ou qu'il n'existe pas. On a du mal à l'admettre, mais c'est ainsi. Aucun d'entre nous n'a le pouvoir, par son psychisme, par sa croyance, par sa raison ou par sa volonté, de faire exister Dieu ou de faire qu'il n'existe pas. Le problème, en fait, n'est pas là. Le problème, que nous soyons croyants ou non, consisterait à renoncer à s'étonner, consisterait à renoncer à s'émerveiller, puisque, croyant ou pas, nous sommes et nous vivons, et vous le savez, et bien sûr, dans un monde miraculeux, spectaculaire, horrible, merveilleux, déroutant. Et ce récit des actes, au-delà de sa vertu théologique, nous parle d'étonnement, nous parle d'effervescence, nous parle aussi de foi, nous parle aussi de doute, d'incrédulité face à un même phénomène. Alors j'invite les croyants de ce soir à voir du miracle dans la banalité supposée de leur existence spirituelle ou de leur existence tout court. Même si vous êtes des croyants qui ne vont simplement qu'au culte chaque dimanche matin ou certains dimanches matin, voyez du miracle là-dedans. Vous priez ? Comment pouvez-vous trouver cela banal ou habituel ? Ou comment pouvez-vous ne pas vous réjouir du merveilleux de ce banal ? Vous respirez, c'est-à-dire vous faites entrer dans des petits sacs vides de l'oxygène indispensable à votre survie, et cela sans en avoir conscience ? Bravo, sincèrement. Et j'invite les incroyants de ce soir à faire pareil, à prendre exemple sur ce botaniste agnostique et savant et épaté. S'il y a quelque chose à dire encore dans cette fête de Pentecôte, et pour en finir, c'est le brouillage des frontières. C'est la convocation à une unité beaucoup plus vraie, beaucoup plus résistante que nos clivages illusoires et très souvent mortels. C'est une convocation à voir la banalité du miracle et le miraculeux dans sa parfaite banalité. C'est être convié fermement à entendre et à apprendre la langue, pas si étrangère que ça, mais peut-être éminemment maternelle, qui résonne et qui s'exprime dans tout ce qui vit. Amen.
Pour la première fois, nous n'applaudissons pas puisque nous n'avons pas l'habitude d'applaudir au milieu du culte. C'est à la fin du culte que nous sommes invités à applaudir si nous le souhaitons. C'est le moment d'annonce, un moment d'annonce un peu particulier puisque c'est le deuxième culte de la journée, pour dire que ce matin au temple de Port-Royal, nous avons accueilli Myriam Saab, Serein, c'est le nom de son mari, et leurs trois enfants. Nous avons accueilli Myriam pour sa demande de baptême, et elle a été baptisée, et nous l'avons accueillie dans notre église, à la Sainte-Seine. Et c'était un beau moment. Il y avait d'ailleurs des enfants hein, qui se promenaient. Donc aujourd'hui, c'est une fête de Pentecôte bien riche. Et nous sommes d'accueillir de nouveaux mélomanes. Donc c'est le culte particulièrement musical, et j'ai annoncé à la paroisse que c'était le dernier culte, histoire de réveiller un peu l'émotion des gens, que c'était le dernier culte particulièrement musical, et je précisais, si on me le demandait, une astérisque, de la saison. Voilà. Parce que si je me fie à ce côté-là de l'assistance, on continue. Là, il y a moins de monde quand même, donc il faut voir. Donc, bien sûr. Donc, ces cultes tiennent pour notre paroisse moyenne, juste parce que vous y venez. Et ça a beau être plus ou moins la même prédication, la liturgie change, mais la même prédication le matin et le soir. Malgré tout, tout change grâce à la venue des musiciens. Ça continuera probablement l'année prochaine, la saison prochaine, mais c'est à vous de faire vivre et favoriser notre joie d'accueillir des musiciens très régulièrement dans cette église. Il y aura, à propos de musique, un concert de notre Chœur du Temple, le Chœur du Temple de Port-Royal, animé par Florian Westphal, le 7 juin au Temple de Port-Royal à 20h30. Je ne vous ferai pas la liste de tous les auteurs inconnus.
Tvilink.
Voilà.
Tvilink.
Oui, Tvilink. Il y en a deux. Voilà. Voilà. Donc, à retenir donc, le mercredi 7 juin à 20h30, Chœur du Temple. Ce sera le Chœur du Temple a cappella cette fois. Oh, ceci est un stylo.
C'est parce que je lui ai dit d'attendre, en fait.
Ah.
Mais non, mais ça suffit.
Le 4 juin prochain, au Temple de Port-Royal, le prédicateur et ce qu'on appelle la personne qui préside le culte, ce sera notre président de conseil régional. Toi aussi, tu t'y mets ? À savoir, monsieur le pasteur Samuel Amedro, qui présidera le culte. Et je vous invite à venir au culte ce jour-là, spécialement, puisque nous sommes une paroisse, évidemment, avec une certaine autonomie dans notre projet, dans notre vie, bien sûr. Personne ne nous regarde davantage. Mais nous sommes aussi solidaires les uns des autres. Et la solidarité s'exprime à travers la région, dont ce pasteur est le président du conseil régional. Donc, c'est bien de montrer que notre paroisse existe, parce que c'est quand même lui, en finalité, qui augmente nos cibles régulièrement. Donc voilà. Et ce sera bien d'être là, donc 10h30 dimanche prochain. Puis enfin, ma dernière annonce un peu organique, c'est le dimanche 11 juin. Le culte se déroulera à la maison fraternelle, mais il sera inséré entre deux assemblées générales. Donc il est à 11h, il dure une demi-heure. Mais ce jour-là, nous allons accueillir un nouveau membre officiellement dans notre église qui s'appelle Edith Vallée. Et nous aurons la joie de l'accueillir pendant le culte et ensuite célébrer l'accueil à la Sainte-Seine dans le jardin puisqu'il y aura un repas qui suit. Donc le 11 juin, c'est 9h ici pour les émargements. Ensuite, l'Assemblée générale de l'association cultuelle, c'est-à-dire l'Église. Ensuite, le culte, une demi-heure avec un accueil. Ensuite, l'Assemblée générale du diaconat de notre paroisse qui est hyper actif, très actif en tous les cas, et qui fête ses 20 ans cette année. Donc c'est eux aussi, plus ou moins, qui nous invitent pour le repas qui suit. Mais ce repas sera précédé, comme dans les temps anciens finalement, par une sainte scène. Et je vais arrêter sur le fait d'égrener des jours comme ça. Quelqu'un d'autre a une annonce, même si elle ne concerne pas la paroisse ? Non ? Donc, c'est le moment aussi de citer et de nommer Emmanuel Burgos au piano et Julia Burgos au corps. Nous les remercions. Ils ne sont pas des habitués, pas assez, je trouve. Mais quand même, vous repérez leur visage et leur sonorité. Donc, merci. On peut déjà les applaudir.